Moins de 100 jours de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, un test grandeur nature ce soir pour les Bleus. L'équipe de France reçoit l'Espagne. L'Espagne, championne d'Europe en titre, match à suivre au Stade de France.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, ce soir à 19h20. Jean-François Equilly.
Notre invité ce mercredi est Éric Woerth, le ministre du Budget. Nous évoquerons avec lui l'aide du gouvernement aux départements sinistrés après le passage de la tempête, mais également les difficultés de la majorité à moins de 2 semaines du premier tour des élections régionales. Rendez-vous avec Éric Woerth dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressaud du Monde, ce soir à 19h20.
Oh, she may be weary.
France Inter et le Théâtre du Nord à Lille présentent du 9 au 17 mars Alice, etc. Divertimento autour de 3 courtes pièces de Franck Aramé et Dario Fo, mise en scène par Stuart Side. Voyage jubilatoire à travers les menues crises d'usure du couple et les désenchantements de certains combats féministes. Alice, etc. à retrouver dans les émissions de France Inter. France Inter.
La différence.
15h05 sur France Inter, vous retrouvez Daniel Mermet.
Merci pour et bravo pour Frédéric Lordon avant-hier. Le piège des chiffres, 3 millions d'euros, le montant des subsides de la présidence de la République, de notre chef de l'État, pour les infortunés de Vendée-Charente. 3 millions d'euros, c'est la valeur de 3 grosses maisons sur ma commune ou de 6 maisons confortables. Ridicule, et dire que la communication de l'Élysée ne s'en rend pas compte. 3 millions d'euros. Salut!
Bravo Daniel et bravo à votre fine équipe. C'est vraiment merveilleux d'entendre un petit bijou aussi spirituel que celui que nous avons entendu hier mardi. C'est vraiment rafraîchissant et c'est vraiment aimable à vous de nous envoyer de temps en temps des petits signaux de rigolade de la sorte. En tout cas, moi qui suis professeur de philosophie, je me lance dès aujourd'hui dans le botulisme le plus effréné. Merci encore, au revoir.
Mais je vous remercie la bâtisse de m'avoir fait connaître Botule, parce que sans le savoir, j'étais un botuliste ignorant de ma science, puisque je suis un adepte de l'existence non existentialiste et de l'existentialisme non existentiel. Et par un plus grand des hasards, j'ai été aussi taxithérapeute, et c'est super, quoi. J'ignorais qu'il pouvait exister Botule, donc je remercie tout ce phénomène médiatique qui fait qu'on en parle. Enfin, je vais me précipiter sur ses œuvres pour trouver enfin un guide, ou sinon un guide, disons, quelqu'un qui pourrait m'orienter philosophiquement et spirituellement. Je cherche une philosophie qui ne soit pas spirituelle ou une spiritualité qui ne soit pas philosophique, donc je pense que je suis sur le bon chemin. Merci là-bas si j'y suis. J'ai vraiment besoin d'entendre ça.
Ah là, je suis mort de rire là. Non, puis alors là, je cours chercher du sel. Moi, j'espère que certaines personnes iront bien écouter cette émission. Et alors surtout, je pense surtout à ceux qui vont prendre ça au sérieux là. Bah, BHL se sentira moins seul. Ça, c'est important. Allez, salut. Bisous à tous, c'était Olivier de Haute-Savoie. Bye bye. Bon courage.
Oui, je viens d'écouter en fait pendant une dizaine de minutes en fait l'émission sur Botube là. Et au départ, j'écoutais un petit peu par curiosité. Et au bout de 20 minutes, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était un peu du foutage de gueule, quoi. Enfin, j'avais du mal à comprendre le propos. Enfin, c'est quoi le propos de faire une émission comme ça? Je ne comprends pas cette émission. Je ne comprends pas le propos de cette émission, vraiment. Ce que tu veux défendre, dénoncer ou critiquer. Donc, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis passé complètement à côté, mais j'aurais aimé une petite explication, aussi courte soit-elle. À bientôt.
Ah ouais, bravo. Alors là, 7 heures sur Botule, là, avec ses fans, hein, c'était vraiment génial. Alors là, je me suis vraiment amusé, mais c'était un régal. C'était une véritable dégustation, un moment de plaisir. Ça fait penser là aux manifs de droite qui étaient organisés, je crois, par un collectif qui s'appelait Restons Vivants, si je ne m'abuse. Enfin, ces intermittents du spectacle. Oui, intermittents, artistes de droite, hein, oui, qui faisaient, mais alors, sérieux. Les manifs là, dans Paris et peut-être d'autres villes aussi. Enfin, c'était un super bon moment là, vraiment génial. Allez, c'était Ludovic du Nord-Alsace.
Eh bien, moi, j'ai des révélations à faire sur Jean-Baptiste Botulle. En effet, ma grand-mère, qui était ariégeoise, allait faire les vendanges dans l'Aude. Eh oui. Et elle a eu une petite aventure avec Jean-Baptiste Botulle. Et Jean-Baptiste Botulle lui a dit qu'il commentait Marx, ce qui n'a pas été dit aujourd'hui à cette émission. Il travaillait beaucoup sur Marx vers la fin de sa vie, en 46-47, non ? Et il a eu cette pensée forte que je vous soumets, d'après Marx, hein, n'est-ce pas ? C'est la phrase de Marx. Eh bien, il l'a travaillé ainsi. Le monde aujourd'hui se présente devant nous comme une gigantesque accumulation d'impostures. Et je pense que cette phrase de Botulle devrait être vraiment méditée. Vraiment, vraiment méditée. Voilà, je vous remercie. C'est très, très important de réactiver la pensée de cet immense penseur. Et grâce à notre ami BHL, bien sûr. Et bravo pour cette émission. Ce fut vraiment formidable. Merci.
Je suis absolument mais consterné, honteux, d'avoir dû attendre plus de 50 ans pour enfin pouvoir compléter ma culture philosophique et surhumaniste, pourtant caillement exhaustive, grâce à cette émission d'aujourd'hui, prise en cours, d'ailleurs, ce qui m'a fait penser à un grand et béat moment que j'étais sur Culture, et la compléter, dis-je, ma culture, par cet apport essentiel, primordial du botulisme. Ah, merci à BHL et à Bernard-Henri Lévy, ils sont deux, il paraît maintenant, dont il ne restera très probablement que cela, mais c'est énorme. Et merci à vous, cher Mermet, avec un reproche cependant, et de taille. Pourquoi, à la fin, n'avoir pas nommé avec leur titre les participants à l'émission, ces héroïques, fidèles, découvreurs, défricheurs d'un courant historique? Et pire, avoir contribué gravement à la désinformation ambiante en ne nous livrant aucune information sur leurs chemises. Et avec quel col, ces chemises? Mao, Guillotin, Polonier, que sais-je, qui libéraient si franchement leurs paroles expertes. Et cette jeune femme, si discrète, si parfaitement à sa place, rien sur ses mensurations, la taille de ses cordes vocales, son goût naturel ou cultivé pour le fiancé Ken. Enfin, tant de détails apparemment dont j'aurais voulu pouvoir situer l'importance dans l'exhaustivité de leur discours. Enfin, merci quand même, et surtout à eux, mais aussi à toi, cher grand Hermès, qui a fort bien fait de nous rappeler qu'au-delà de ta raison furieuse, tu sais aussi bonne bidonnade garder.
Et voilà, merci à tous et merci à notre pompeux cornichon national. Grâce à lui, eh ben on a passé une heure effectivement formidable. Enfin, en tous les cas, vous avez passé une heure formidable. On pourrait continuer ainsi avec vos messages suite à l'émission d'hier où on a vraiment appris énormément de choses sur Jean-Baptiste Botulle grâce aux botuliens qui nous entouraient, parmi lesquels il y avait Jean-Hugues Lim, auteur d'un petit bouquin intitulé « 100 raisons de ne pas se suicider au boulot ». Voilà, ça peut être précieux. C'est aux éditions Mille et une nuits et ça vient de sortir. Et puis un autre livre aussi d'Hervé Le Tellier que vous retrouvez sur France Culture avec les papous. Vous le connaissez, cet oiseau-là. Auteur de « Assez parler d'amour » chez Lattès. Laissons tomber Botulle, on le retrouvera j'espère bientôt, et notre pompeux cornichon certainement aussi, mais pour l'instant on retourne au Honduras. C'est le salon de l'agriculture ici en France et c'est un autre salon de l'agriculture qui se passe au Honduras, beaucoup moins gai et beaucoup plus consternant suite à ce coup d'État au Honduras. Vous le savez, on a essayé d'expliquer ce qui s'est passé là-bas, qui est absolument passionnant, tant... Évidemment, c'est loin, évidemment, c'est un petit pays, ce genre de petit pays dont on entend parler que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, et pourtant il s'est passé là quelque chose de singulier avec ce président étonnant, élu sur une liste libérale, voire ultra-libérale, bourgeois, oligarque, lui-même, et qui, grand propriétaire également, et qui va se mettre à conduire une politique sociale qu'on pourrait qualifier de gauche alors qu'il ne l'est pas du tout. Et il va tellement réussir dans sa politique que les oligarques, alors ceux qui détiennent ce pays depuis très longtemps en vérité, parce que il s'agit véritablement d'un coup d'État militaire tout à fait archaïque, c'est comme ça que qualifie ce qui s'est passé au Honduras Alain Jox, qui est un bon observateur de cette scène-là, et qui rappelle une chose très simple, c'est que au Honduras, 7000 personnes, soit 0,1% de la population, est propriétaire de 80% des terres cultivables. Voilà. 80% des terres cultivables appropriées par 1% de la population. Donc là, on en est toujours à ce qui se passe dans toute l'Amérique latine et ailleurs dans le monde, c'est-à-dire l'impossibilité de l'incapacité, l'impuissance à redistribuer les terres. Eh bien, ce président Zelaya, cet étonnant président, s'était attaqué à cette hydre vraiment. Avec quelques succès, mais coup d'État, mais élection, mais voilà, eh bien cette réforme ne sera pas appliquée, même si, pour l'instant en tout cas, même si les paysans concernés sont en lutte, sont restés en lutte, et c'est une visite qu'on va leur rendre, eux qui occupent des terres de grands propriétaires et qui se battent jusqu'au bout. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Le pire lynchage qui soit de ce pauvre Bernard Henry a eu lieu hier, au Faux du Roi. Par complaisance ou par calcul roublard, la fine équipe a laissé le plus grand décolleté masculin de Paris se dérouler à lui-même le tapis rouge, dans lequel il s'est pris les pieds tant l'autocomplaisance s'y est étalée sous les appauvrissements, pardon, les applaudissements, ça c'est mon clavier qui a fourché, les applaudissements des animateurs et du public. Sachez qu'il est le seul à avoir essayé de panser les suicides à France Télécom. Voilà ce qui arrive quand on ne lit pas les journaux, mais que sa prose et les fiches établies par les employés. Sachez qu'il a répété au moins deux fois « Je suis candide ». Vous avez bien entendu « candide ». Sachez que, je le cite, « Si j'ai fait une erreur, ce n'est pas Botule, mais de m'être fait photographier au Raphaël ». Donc, ce fait de démolir BHL, il le fait très bien lui-même.
Oui, bonjour. Moi, je voulais simplement faire une réflexion. Je voulais simplement dire, on entend rouspéter dans les campagnes, on entend rouspéter dans les villes, ça manifeste, ça crie, ça fait des grèves, ça retient des patrons. Bon, tout ça, c'est bien, mais quand il va falloir aller voter, combien vont y aller? C'est bien de manifester dans la rue, c'est bien de crier, de hurler. Moi, j'ai 83 ans, je n'ai jamais raté une élection. Et après, bon, ben, moi, je râle, mais je peux râler, parce qu'au moins, j'ai donné mon idée avec un bulletin de vote. Alors, faites-en autant, allez voter. Au revoir.
Bonjour Mermet, bonjour toute l'équipe, c'est Christine de Nîmes. Je téléphone pour rappeler à tous les ANG de Nîmes et des environs que notre repère se tiendra demain mercredi à partir de 19h au bar Les Ramblas, boulevard Gambetta. Venez nombreux. À bientôt, merci pour tout.
Oui, salut Daniel, je viens de me délecter de ton émission du jour là sur Jean-Baptiste Botule. Alors il se trouve que j'ai une nouvelle extraordinaire pour toi et tes invités du jour, car je sais exactement où se trouve la sépulture de Jean-Baptiste Botune. En effet, sa tombe se trouve à côté de celle d'Eugésippe Simon. C'est un personnage tout aussi énigmatique, hein, mais qui a laissé un ouvrage tout à fait intéressant et surprenant, même qui traite de l'attachement de Botule au monde animalier et qui s'intitule « Botule et mouche cousue ». Donc le scoop, c'est que ces deux tombes sont au cimetière de Poils, et il y a fort à parier que dans la situation économique actuelle et intellectuelle et politique de la France, nous soyons très bientôt à Poils. À Poils, tous à Poils nous irons, et à Poils, tous à Poils nous serons. Voilà Daniel, merci, c'était une émission très rafraîchissante. C'était Louis-Michel Laurent de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn. Et ça, c'est vrai. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.
Vous êtes à 214 jours de lutte. C'est le dernier jour de la lutte, la dernière manif.
C'est le premier d'une nouvelle étape en la lucha.
Non, c'est plutôt le premier jour d'une nouvelle étape dans la lutte. On a compris, les golpistes, c'est de la merde.
El partido político en el poder ahorita, el partido nacional,
le parti au pouvoir aujourd'hui, le parti national, représente les élites les plus réactionnaires aujourd'hui en Amérique centrale.
Oui, c'est ce qu'on fait de plus réactionnaire, de plus ultralibéral, de plus oligarchique.
Sans complexe.
Oligarchie sans complexe.
El pueblo consciente!
Le peuple conscient ici est présent.
Bueno, como nosotros los campesinos, ¿verdad? No tenemos nada y el que tiene no quiere que nosotros tengamos algo, ¿verdad? Y peleamos nuestra tierra que
nous, les paysans, on n'a rien et puis ceux qui ont tout, ils veulent qu'on n'ait jamais rien et donc nous on se bat avec rien.
Qui est derrière ce coup d'état?
La oligarquía hondureña, la empresa, 10 empresarios, 12 empresarios.
L'oligarchie du Honduras, une dizaine de gros patrons.
Qui ont été los dueños de este país.
Ont été les propriétaires de ce pays.
La guérilla avec la machette et le portable.
Sí, así es.
Ouais, c'est comme
oui,
ça.
Oui. Et la deux choses.
L'oreille et l'arme.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis. Avec Antoine Chao, Honduras, 214 jours de lutte héroïque.
El 27 de enero, el Frente de Resistencia del departamento de Colón, decidimos hacer una toma de la carretera.
Alors le 27 janvier, le jour de l'investiture présidentielle, tous les gens du Front National de Résistance ici et de Tocoa, on ne pouvait pas aller à la capitale, donc on a décidé de faire un blocage de la route ici.
Sí, por dos razones. Una porque Tegucigalpa queda largo y no teníamos el dinero para movernos.
Parce qu'effectivement Tegucigalpa c'est loin, on n'avait pas les moyens d'aller jusque là-bas.
Y otro porque necesitábamos también hacer sentir en la región que el movimiento de resistencia existe y que tiene vida. Solidarizarnos de esa manera también con los compañeros campesinos que están haciendo las tomas de tierra de los empresarios René Morales y Miguel Facuse.
Alors nous, on voulait, par cette action, montrer que le Front de Résistance était présent et qu'il était solidaire aussi avec les paysans qui font des occupations de terres et qui occupent notamment les terres de Miguel Facuse et René Morales, deux grands propriétaires terriens.
J'ai pensé faire des changements à l'intérieur du schéma néolibéral, mais les riches ne cèdent pas un penny, les riches ne veulent rien céder de leur argent, ils veulent tout garder pour eux. Alors logiquement, pour faire des changements, il faut incorporer le peuple. Ainsi parlait Manuel Zelaya, le 28 juin 2009, au journal El País. 28 juin 2009, c'était le jour du coup d'État en Honduras. C'est intéressant, c'est ce que dit ce président qui a l'air d'être complètement pragmatique, a essayé, et puis qui s'est aperçu vraiment de manière concrète, non pas théorique, mais concrète, que ben on peut pas. Les riches, ils viennent d'être cités, deux grandes familles, deux grands noms viennent d'être cités par ces paysans, ne veulent rien lâcher. Et ils sont allés jusqu'à faire ce coup d'État, ils ont réussi à faire des élections, et le pays a nouveau à basculer dans la domination oligarchique de quelques familles avec hélas le soutien
des États-Unis qui ont d'abord joué un double jeu et puis qui finalement maintenant soutiennent le nouveau pouvoir du Honduras. L'une des raisons, bien évidemment, c'est que le Honduras, on l'a dit, mais il faut encore le répéter, est un pays névralgique, disons, qui a une importance dans la géostratégie des États-Unis dans cette région et qui depuis longtemps est le gendarme des États-Unis. Il y a eu à plusieurs reprises des bases américaines au Honduras et encore aujourd'hui des camps d'entraînement militaires avec des conseillers militaires états-uniens dans cette région. Et puis on a parlé aussi de bases militaires en Colombie. Enfin, tout se passe comme si l'espèce de printemps qu'a connu cette coin du monde, ces pays, Venezuela, Bolivie, Équateur, etc., même Brésil, il se pourrait bien que le vent soit reparti dans l'autre sens. En tous les cas, la tempête a soufflé très très dur sur ce Honduras. Je parle bien sûr d'une tempête politique. Alors aujourd'hui, la lutte continue, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce Front National de Résistance qui a résisté pendant 214 jours, eh bien, c'est pas terminé du tout. Ça continue, on a des échos de manifestations. Il semble ne pas se démobiliser. En tout cas, dans la région dans laquelle nous allons, les paysans ne se démobilisent pas. Où allons-nous? Eh bien, on a quitté Tegucigalpa, on a pris l'avion jusqu'à San Pedro Sul, c'est-à-dire la capitale du industriel, on peut dire économique, du Honduras. Et puis là, on a repris encore un autre avion. On a longé la côte du côté atlantique, du côté Caraïbe, pour aller jusqu'à la Ceiba. Et là, on a pris encore une voiture pour arriver jusque dans une région sans foi ni loi, ou alors la foi, ou alors la loi de ces grands propriétaires terriens. Et on va le voir, aussi des grands narcotrafiquants qui vivent dans cette région tout à fait tranquillement, sans être en quoi que ce soit importunés. Importunés quand même par ces paysans pauvres et sans terre, qui depuis très longtemps essaient simplement d'acquérir suffisamment de terre pour manger. C'est simplement ça dont il s'agit. Le Honduras, c'est le deuxième pays le plus pauvre de cette région, avec 60-70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 15-20% qui vit dans la très grande pauvreté, 40% du produit intérieur brut est assuré par les remesas, c'est-à-dire par l'argent envoyé par les immigrés vers les États-Unis. C'est dire à quel point, avec une augmentation considérable du chômage, à quel point l'agriculture est quelque chose de très important simplement pour survivre dans ce pays. C'est ce que le gouvernement de Zelaya avait compris. Les réformes ont été mises en place, acceptées, financées, soutenues, et puis tout s'écroulerait ou risque de s'écrouler avec ce nouveau gouvernement. Les paysans résistent, tiennent le coup, occupent des terres courageusement. C'est très dangereux parce que il y a les escadrons de la mort, il y a les sicaires. On avait déjà rencontré ces gens-là dans le Pará au Brésil, si vous vous souvenez. Ils sont là dans le coin, les paysans résistent et nous allons leur rendre visite jusqu'à 16h. Dans la basse j'y suis Honduras, 214 jours de lutte héroïque.
C'était un 28 juin, et je m'en souviens très bien. Un dimanche matin, ils ont kidnappé le président. Armés de mitraillettes et de grenades, des militaires masqués, le Congrès et les forces armées ont donné un coup d'État. Le président président Zelaya, ils l'ont sorti de sa maison, vêtu d'un pyjama, ils l'ont expulsé du pays. Et seulement vêtu d'un pyjama, ils l'ont expulsé vers un autre pays. Ils l'ont conduite au Costa Rica, dans un avion du gouvernement. C'était des pilotes putschistes. Qu'ils aillent en enfer. Ils l'accusent d'être communiste quand il ne voulait qu'une consultation populaire et que le Honduras était prêt pour cette quatrième urne. Avec ce couvre-feu, nous sommes en disgrâce. Mais nous refusons les putschistes. Et que vive la démocratie. Nous refusons les putschistes. Et que vive la démocratie. Nous voulons que Mel rentre au pays, dans son pays qui est le Honduras. Que vive la démocratie et que meure la dictature. Que vive la démocratie et que meure la dictature.
Llegamos a las 8 de la mañana al lugar que se le conoce como Planes, que es un punto importante porque ahí pasa todo el tránsito de carga comercial.
Alors dès 8h du matin, on a occupé un grand carrefour qui est stratégique parce que tous les camions passent par ce point dans le département de Colón où on est ici.
Mientras tanto, nosotros estábamos en la toma de la carretera alrededor de las 10 de la mañana en un sector de las fincas de palma tomadas por los campesinos, una cooperativa que se llama La Nueva Suyapa. Ocurrió un enfrentamiento entre policías, guardias privados y campesinos.
Au même moment, dans une des terres occupées par les paysans, il y a eu un affrontement entre les paysans, la police et les milices de sécurité des propriétaires.
Est-ce que les paysans étaient armés? Algunos campesinos tienen armas livianas porque en Honduras la represión militar, o sea, la represión del Estado, el Estado represivo se montó desde hace muchas décadas.
Alors effectivement, les quelques paysans ont des armes à feu, des petits calibres, parce que ici, depuis des années, il y a de la répression de la part de la police, de l'armée.
La historia de la reivindicación por tierras en Honduras ha estado manchada con mucha sangre.
Toute l'histoire de la revendication des terres a été tachée de beaucoup de sang au Honduras.
Entonces los grupos campesinos han tenido que usar ese tipo de estrategias para que los cuerpos de represivos del Estado al menos les tengan cierto respeto.
Alors les paysans ont été obligés d'utiliser ces méthodes pour que les forces répressives de l'État gardent leur distance et les respectent un peu.
Bien, entonces a la misma hora en que se le estaba imponiendo la banda presidencial a Pepe Lobo, estaban los policías atacando con armas de grueso calibre a los campesinos.
Et donc au même moment, pendant que le nouveau président Pepe Lobo recevait son écharpe présidentielle, ici l'armée tirait à balles de gros calibre sur les paysans.
Ya en ese momento sabíamos que habían tres campesinos también heridos, pero uno de ellos de gravedad.
Donc là, on a appris qu'il y avait trois paysans aussi qui étaient blessés, dont un très très gravement.
Voilà ce qui s'est passé dans cette région et ce qui se passe dans cette région. Donc du nord-ouest du Honduras, il y a bel et bien des affrontements. Les paysans sont armés, tout comme évidemment l'armée et la police, mais aussi ces milices au service de ces grands propriétaires terriens. Les histoires de réformes agraires et de lutte pour la terre sont des luttes qui durent depuis longtemps. Il y a eu des réformes au Honduras qui était petit à petit permettait peut-être une meilleure répartition, et puis une grande réforme de modernisation imposée par le Fonds monétaire international en 95, et qui alors a anéanti toutes les améliorations qui étaient déjà très infimes, mais enfin pour favoriser les grands propriétaires et les concentrations au détriment des paysans, des petits paysans que nous allons retrouver. On est dans cette voiture avec Felipe qui est un militant et qui depuis longtemps travaille sur ces dossiers et qui est très compétent sur les réalités sociales politiques de cette région du Honduras.
Donc ici, c'est le Valle de la Guana.
Ça y est, on arrive dans le Valle de la Guana, c'est la limite de la vallée de la Guana, de la rivière la Guana.
Toda la margen derecha quedó en manos de Miguel Facusé y la margen izquierda.
Alors toute la rive droite est plutôt la propriété de Miguel Facusé.
Y la margen izquierda que quedó en manos de René Morales y Reinaldo Canales, algo así.
Et la rive gauche est aux mains de René Morales et Reinaldo Canales, deux grands propriétaires.
Se apropiaron de forma fraudulenta, ilegal, de las tierras de alrededor de 40 cooperativas palmeras que se organizaron a principios de la década de los 70.
Donc ils ont récupéré de manière frauduleuse le territoire d'à peu près 40 coopératives qui s'étaient créées dans les années 70 et qui cultivaient de la palme.
Estas son fincas de narcotraficantes.
Ça, par contre, c'est des fermes de narcotrafiquants.
Donde vean postes blancos.
Là où vous voyez les barrières peintes en blanc, ça veut dire que ce sont les territoires des narcotrafiquants.
Ah bon? Mais pourquoi ils définissent leur territoire comme ça?
Quieren decir con eso que son poderosos, que tienen dinero.
Donc c'est pour prouver qu'ils sont puissants, qu'ils ont de l'argent.
Hacen alarde de su vanidad y de la impunidad con que se mueven.
Entonces, sont vaniteux et ils montrent leur degré d'impunité.
Ellos quieren que todo el mundo sepa que esa propiedad de ellos.
Ils veulent qu'on sache que c'est leur propriété, que ça leur appartient.
Una especie de narco-estado.
Voilà, ici c'est comme un narco-état.
Tu veux dire le Honduras ou la région où nous sommes?
Honduras en général et la région de la Guana en particulier.
Alors, le Honduras en général et ici la région de la rivière Aguan en particulier.
Quel trafic ils font exactement?
Cocaïne, hein?
La cocaïne.
Cocaïne traída de Colombia.
Qui vient de Colombie.
Por la région indígena de la Mosquitia de Honduras. Y de la
Donc
Mosquitia.
Ça arrive par la région indigène de la Mosquitia, qui a une frontière avec le Nicaragua.
Toda esta zona es una zona selvática hacia el este y una zona donde hay muy poca infraestructura del Estado, hay mucha presencia de instituciones públicas.
Donc ici c'est une zone assez sauvage, il y a très peu d'infrastructures, il y a très peu de représentation de l'État.
Entonces los narcotraficantes la han utilizado como una segura plataforma para...
Donc, comme c'est une forêt vierge, les narcotrafiquants l'ont utilisé comme base arrière, très sûr.
El narcotráfico se ha convertido en una tercera fuerza politique en el país y en esta región.
Donc les narcotrafiquants sont devenus la troisième force politique du pays et de la région.
Ellos necesitan la estructura del Estado débil para poder funcionar.
Ils ont besoin d'un État faible pour pouvoir fonctionner.
Entonces, por supuesto, ellos han entrado en el escenario político financiando campañas, poniendo y quitando ministros.
Donc ils sont rentrés dans le jeu politique en finançant des campagnes, en choisissant des ministres.
Mais si je comprends, les narcos sont des gens qui se cachent pas, quoi. Ils ne se cachent pas.
Non, para nada. El narco no tiene por qué esconderse en el país.
Il n'a pas besoin de se cacher dans ce pays, le narcotrafiquant.
C'est étrange, hein, les forêts de palmiers à gauche et à droite de la route. C'est étrange, on n'a pas envie de s'y balader, c'est curieux. Pour nous, c'est des arbres symboliques du sud, du soleil, de la mer et tout. Et là, pas du tout, quoi. C'est une espèce de grosse végétation industrielle, c'est industriel, pas très sympa, quoi. C'est curieux, hein. Il n'y a que les troncs, on voit que les troncs, c'est une espèce de colonne comme ça. Et toutes le feuillage des palmiers est tombé. C'est très curieux, comme voilà, on en voit maintenant à gauche là.
Cuando la plantación llega a los 25 años de edad, ya llegó al punto culminante de su etapa productiva. Entonces se siembra la finca nueva debajo de ella.
y se inyecta veneno a los árboles viejos para que se mueran en pie.
Non, mais en fait, là, c'est qu'au bout de 25 ans, l'arbre ne produit plus. Et donc, on replante des petites pousses au pied et on injecte du poison dans les grands arbres qui dépérissent.
A pesar de que es un cultivo muy rústico, se utiliza bastante agroquímico para control de nematodos, cudos y para virus.
Mais malgré le fait que ce soit une culture très rustique, on utilise beaucoup de produits chimiques pour éviter les maladies.
Fertilizante nitrogenado.
Et on utilise beaucoup d'engrais nitrogénés.
Principalmente amoníacos.
Des ammoniacs, notamment.
Que terminan dañando el suelo.
Qui finissent par abîmer le sol, polluer le sol.
Facusé tiene créditos de carbono por las fincas de palma africana.
Miguel Facusé récupère des bons de taxes carbone avec ses plantations de palma africaine.
Realmente, las fincas de palma, que son miles y miles y miles de hectáreas, son desiertos biológicos.
Mais en fait, ces forêts qui font des milliers et des milliers d'hectares sont des déserts biologiques.
Tu veux dire que c'est un désastre pour la biodiversité.
Dos especies que les podría mencionar es las aves rapaces y la serpiente que aquí le llamamos boa.
Les rapaces, par exemple, sont en danger, mais même des serpents comme les boas disparaissent de ces propriétés.
A este sistema asesino consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza, persiguen al under y montan la pesquisa y a Popaya Universal le deja la vitaliza sin ninguna competencia, el negocio le garantizan. A Santolalla lo ponen de jurado y a todo lo nuevo lo tiran improvisado y te quieren meter la mano en el trabajo, pasándose solo en cuestiones de mercado con el verso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía que ya te desplaza. Te dejan aislado, muy lejos de lo tuyo, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre, como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Pero sin cromaño no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia que estos gobiernos representan una mierda. Vayan presos los que representan la nación.
Una toma de carretera o un sitio público, propiedad del Estado, se coloca la bandera allá está.
Donc là, on arrive à l'occupation. Là, on voit à chaque fois qu'il y a une occupation comme ça publique, on trouve le drapeau national.
Sí, entonces es la entrada al campamento.
Donc là, c'est l'entrée du campement.
Avec un gars masqué, avec sa machette à la main, qui nous salue. L'autre aussi avec sa machette et son chapeau. Et puis là, on trouve le drapeau du Honduras, bleu, avec les 5 étoiles. Voilà, on est rentré dans la zone occupée.
Le territoire libéré, plutôt.
Ouais.
Territorio libre, sí.
Territoire libre.
Mais c'est pas rien, là, on plaisante, mais c'est les gars qui risquent leur vie, hein. Et pas dans des combats réguliers. C'est des combats par derrière, c'est des combats de salauds, parce que ceux qui les menacent, tu vois là, des gars qu'on voit à contre-jour, là, c'est étonnant, ça. Ces images, des gars qui remontent avec leur bouteille dans une main, leur bouteille d'eau dans une main, au bout d'une ficelle, et la machette dans l'autre main. Ceux qui les menacent et qui les tueront peut-être, c'est des tueurs à gages, et ce sera impuni, quoi. Voilà. Le linge qui sèche, des paysans qui occupent ce terrain. Ah oui, c'est des cabanes. Faites avec des branches de palmiers. Et les gens viennent vers nous, la machette à la main, j'espère que c'est Mika. Ouais, dis donc, hein, c'est pas des gens très riches, hein, tout ça.
Buenas, Antonio.
Les gars nous saluent, la machette sur le côté. Voilà. Les dames aussi nous saluent. Souvent, les machettes sont dans des étuis assez bien décorés en cuir, un peu comme des fourreaux d'épée, quoi. C'est des fourreaux. Voilà. Tous les compagnons qui arrivent, ils vont sans doute leur expliquer ce qu'on fait là, qui on est, pour les rassurer, parce qu'après tout, ils sont quand même, c'est des gens qui sont sur le pied de guerre. Voilà.
voilà une occupation par ces paysans qui ont vraiment cru que la réforme allait enfin leur être favorable, que ces monstrueuses inégalités dans la répartition des terres allaient un peu être réduites, et selon effectivement des décrets adoptés en avril 2008, 500 paysans s'étaient réunis. Cette lutte des paysans hondurien qui dure depuis des décennies, on a cru qu'ils avaient remporté une victoire ce jour-là. 800 groupes de travailleurs agricoles deviendront les propriétaires de la terre qu'ils cultivent depuis des années, mais dont ils n'ont toujours pas la possession légale, n'ayant pas les titres de leur terre. Ces paysans font face à une persécution constante de la part des supposés propriétaires de la terre, ainsi qu'à la destruction de leur culture et des expulsions, et jusqu'à des assassinats. Voilà la situation, on a cru, et puis voilà, coup d'État, renversement, et aujourd'hui la lutte donc continue par ces occupations, et on est donc à Nueva Suyapa dans cette avec ces paysans. Alors en armes, bien sûr, la machette, ça sert pas d'arme, quoique, et puis il y a peut-être aussi un peu des armes à feu quelque part.
Nous on est arrivé ici le 27 janvier.
Pero la lucha hace años que la tenemos de esta tierra.
Mais la lutte pour récupérer cette terre, ça fait des années qu'on l'amène.
Pues hemos vuelto de nuevo porque ya hay unos acuerdos, aunque nuestro presidente Manuel Zelaya Rosales nos firmó un documento.
Mais on est venu ici occuper ces terres parce que Emmanuel Zelaya avait signé des conventions qui faisaient que ces terres devaient nous revenir.
Lastimosamente que cuando el presidente nos firmó ese documento y luego él nos envió unos ministros a dar nuevamente medidas a las tierras. Et fue el golpe de estado.
Malheureusement, une fois que le président avait signé et qu'il était même venu ici avec des ministres pour acter cette récupération des terres, il y a eu le coup d'état.
Bueno, ahí, verdad, empezamos ya nosotros a unirnos à la lucha de la resistencia.
Et donc, nous, à ce moment-là, on a rejoint la lutte de la résistance.
Hemos andado en todas partes donde el presidente estuvo.
Et on a fait des manifestations partout où il fallait aller défendre le président.
Ahora bien, el 27 de enero, pues, volvimos a esta retoma de posesión de nuestras tierras, en defensa de ellas, porque es de donde estamos reclamando el derecho de nuestros hijos.
À partir du 27 janvier dernier, on est revenu sur notre lutte pour récupérer ces terres, pour défendre les droits de nos enfants.
A las 7 de la mañana. Como a las 10:30 de la mañana vino la policía y la DIC.
Donc nous on a pris position ici à 7:00 du matin, et dès 10:00 il y avait la police judiciaire du Honduras qui était là.
Nos capturaron tres compañeros y los traían de escudo.
Ils ont attrapé trois des nôtres et ils s'en sont servis comme bouclier humain.
Pues sin tener ningún diálogo, nada, sino que empezaron ellos a disparar en contra de nosotros.
Et ils sont arrivés dans le campement et sans la moindre sommation ou sans la moindre discussion, ils ont commencé à tirer.
Tirer en l'air?
Non, à la gente, al grupo.
Mais non, ils tiraient sur les gens, ils tiraient sur le groupe.
Sobre todos. Nosotros nos tirábamos al suelo. Tirábamos nuestros niños al suelo también.
On s'est jetés par terre, les enfants aussi, on les a mis par terre.
Cuatro compañeros heridos, ¿verdad?
Quatre camarades blessés de notre côté.
Nosotros solamente tenemos esto, que es nuestra defensa.
Nous on a que ça, nous on a que les machettes.
Con esto que nosotros nos defendíamos cuando ellos nos disparaban.
C'est avec ça qu'on se défendait, nous, avec cette machette et avec des pierres.
Vamos a enseñar dónde pegaron los disparos.
Vous allez voir les impacts de balles quand la police est venue ici et nous a tiré dessus.
Todo esto, abajo, donde pegaban los tiros. Ahí cayó el primer compañero que nos hirieron.
Et là, le premier blessé, il est tombé là, juste à côté. Donc ils essayaient de tirer sur les gens qui étaient cachés derrière les palmiers.
Tiro de M16 de la policía.
Regardez, c'est du M16 de la police.
Ah, fais voir. Ah ouais, quand même.
Y nosotros no dejaremos esta lucha hasta vencer, hasta el final.
Et nous n'abandonnerons pas la lutte avant d'avoir gagné.
Así es que hasta la victoria. Y en nuestra lucha y nuestra defensa con esto estamos.
Y nuestra lucha y nuestra victoria avec la machette.
La defensa del campesino y campesina.
La défense des paysans se fera avec la machette.
Pero hay que seguir firmes, compañeros. ¿Tienen
estamos
miedo?
No, estamos dispuestos a morir.
Por la tierra, estamos en pie de guerra, ¿verdad?
Pie de guerra,
sí. Por la tierra.
Estamos en pie de guerra.
Y la guerrilla avec la machette y el portable.
Sí, así es.
Oui, c'est comme ça.
Oui. Y las dos cosas.
L'oreille et l'arme.
Así es.
On pourrait savoir ce que c'est. Paysans ont pensé quand ils ont vu que Barack Obama était élu président des États-Unis, sans doute qu'ils se sont réjouis, et ils ont eu beaucoup d'espoir dans ce nouveau président, mais voilà, c'est le soutien des États-Unis n'est pas allé à ces gens-là, mais à ceux qui les oppriment. Il faut bien voir les choses en face. On est à peu près dans l'équivalent de la France-Afrique. Il faudrait voir cette zone de l'Amérique latine comme l'équivalent de notre France-Afrique pour les États-Unis. On retrouve Felipe.
El partido político en el poder ahorita, el Partido Nacional, representa a la élite más conservadora de Centroamérica.
Le parti au pouvoir aujourd'hui, le Parti National, représente les élites les plus réactionnaires aujourd'hui en Amérique centrale.
Qu'est-ce qu'on fait de plus réactionnaire, de plus ultralibéral, de plus oligarchique, sans complexe. Oligarchie sans complexe.
Non, sin complejo. Entonces,
sans complexe, tout à fait.
Los próximos cuatro años, lo que se espera es que la estructura elitista en el tema de manejo de tierras nacionales va a cerrar mucho más su capacidad para repeler cualquier posibilidad de movimiento.
Donc, ce qu'on craint, c'est que dans les quatre années à venir, l'élite fasse en sorte que les possibilités de régler ce problème se réduisent de plus en plus.
Pero se espera, porque históricamente así ha sido demostrado, que los gobiernos que han surgido a la sombra de golpes de Estado han sido sagaces a la hora de generar estrategias que funcionan como válvulas de presión social.
Et en même temps, à chaque fois, les gouvernements issus de coups d'État ont eu de la sagacité pour créer des petites avancées sociales qui permettent de fonctionner comme des soupapes.
Entonces, ellos saben muy bien que tienen un movimiento, hay un conflicto ya no naciente.
Ils savent très bien qu'ici, il y a un conflit qui est pas nouveau.
Que ya tiene un poco más de 10 años
en plus de 10 ans déjà.
En el país y que van a hacer lo mismo que hicieron en los 70.
Ils vont faire la même chose qu'ils ont pu faire dans les années 70.
Posiblemente abran nuevas zonas de áreas protegidas o de reservas para colonización.
Ouvrir des nouveaux secteurs pour de nouvelles colonisations.
Para mover el problema hacia las áreas protegidas.
Pour déplacer le problème.
Funcionó en los 70. Eran tierras nacionales y las vinieron a colonizar, a botar montañas.
Sí, c'était des terres nationales, mais qui ont été colonisées justement dans les années 70.
Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció por golpes que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar. Una cruz de palo y nada más.
Plantación adentro, cámara.
Plantación adentro, cámara. Sombras con la gente y nada más.
Camilo Manrique falleció. Plantación adentro, cámara.
Se murió el indio Camilo por palos que daba el mayoral.
Camilo Manrique falleció. Plantación adentro, cámara.
Y el médico de turno dijo así: muerte por causa natural.
Camilo Manrique falleció. Plantación adentro, cámara.
Claro, si después de una tunda de palo que te mueras, es normal.
Camilo Manrique falleció. Plantación adentro, cámara.
Camilo Manrique falleció. Y lo enterraron sin llorar.
Camilo Manrique falleció. Plantación adentro, cámara.
Y
es un triste monumento, una cruz de palo y nada más.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara.
Oye, lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara.
Amovible, yo.
Ouais, voilà, ça c'est ma maison ici, c'est une maison amovible, c'est une maison roulante.
Voilà, voilà, il y a le lit, c'est une vieille remorque pourrie, ils ont fait leur lit là-dedans, puis ils se marrent bien entre eux.
Non, oh, es que ahorita no tenemos, porque como el primer desalojo que nos hicieron, nos quemaron todo.
Mais nous on n'a plus rien en fait, parce que à la précédente expulsion, ils nous ont tout pris, ils ont tout cassé. Là c'est un lit là.
Oh là là, c'est, ouais, enfin, c'est misérable.
Es el trazo para una pequeña casa.
C'est le début pour une petite cabane.
C'est quatre branches, des palmes posées au sol, des piquets tout autour, puis ils vont trouver une toile ou quelque chose à tendre dessus.
No tienen nada más que lo que hay aquí.
Donc il n'y a rien d'autre qu'en fait ce qu'il y a autour de nous. Donc il faut qu'on prenne les feuilles de palme, les branches de palme, de palmiers pour construire.
L'occupation de ces paysans à Nueva Suyapa, il faut bien comprendre que ces gens sont désespérés et courageux, très courageux en même temps, parce que les propriétaires, les grands propriétaires qui sont autour, disposent de évidemment de l'appui de l'armée et de la police, ça, s'il n'y a aucun doute, cette région du Honduras est particulièrement corrompue, mais en plus, ils disposent de milices armées à leur service, et puis éventuellement, si vraiment ça suffit pas, ils ont toujours ce qu'on appelle des sicaires, c'est-à-dire des tueurs à gages qui n'ont pas les méthodes les plus loyales qui soient. C'est dire si ces paysans, femmes, enfants, armés de machettes et peut-être de quelques armes à feu, sont courageux, et la situation est très tendue.
C'est nous qui faisons la cuisine ici.
La mesa que tenemos.
Voilà notre table. Alors on met un petit plastique sur la pierre pour faire les tortillas. Et on tape dessus.
Qu'est-ce que vous faites à manger?
Une tortilla. Il n'y a pas de comida.
Il n'y a rien à manger. On fait des tortillas, c'est tout. Voilà, regardez comment on fait.
Quand on le désaloge à un, le arruinent jusqu'à les frases dans la bolsa, echamos l'arroz cocinado, vous voyez.
Et quand on se fait déloger, on peut rien récupérer. Donc on essaye de récupérer le fond du riz cuit pour pouvoir manger quand on est en chemin.
La olla allá para poner los frijoles. Hay una olla, una. Aquí, entonces cocemos esto primero y ahí ponemos los frijoles.
Donc on n'a plus qu'une casserole parce qu'ils nous ont tout cassé. Donc on cuit d'abord le riz, après on le met dans des sacs en plastique et après on peut cuire les haricots rouges dans notre seule casserole.
Vous êtes drôlement courageuse, hein?
Regarde ça! Tenemos las tortillas hechas en
là, on a les tortillas qui sont toutes faites, les tacos.
Voilà. Riz et haricots rouges, voilà.
Et tout ça rangé dans des sacs en plastique.
Comme ils disent qu'ils vont nous déloger, entonces.
Comme ils ont dit qu'ils allaient nous déloger hier, on avait tout préparé, on avait mis ça dans des plastiques pour pouvoir partir. Ils nous brûlent tout à chaque fois. Ils brûlent les bâches, ils brûlent tout ce qu'on a.
Bueno, como nosotros los campesinos, ¿verdad? No tenemos nada y el que tiene no quiere que nosotros tengamos algo, ¿verdad? Y peleamos nuestra tierra. Que
nous, les paysans, on n'a rien. Et puis ceux qui ont tout, ils veulent qu'on n'ait jamais rien. Et donc nous, on se bat avec rien.
Depuis quand vous vous battez comme ça? Depuis combien de temps?
Ya tiempo, ya tenemos 9 años ya.
Nous, ça fait 9 ans qu'on se bat pour nos terres.
Esta lucha no la vamos a parar hasta que nos entreguen nuestros derechos.
Mais cette lutte, on ne l'abandonnera pas tant qu'ils nous auront pas rendu nos terres.
Así es. Supuestamente que dicen que este donde estamos parados aquí, el dueño de esta tierra tiene 7000 hectáreas aquí en este sector.
Le propriétaire de ces terres, semble-t-il, possède 7000 hectares dans le coin.
Tenemos derecho a las tierras porque
on a le droit aux terres
del mismo país Honduras.
Parce qu'on est des enfants de ce pays.
Et pour l'école, comment vous faites pour les enfants?
No, ahorita no estamos con los niños en la escuela porque mucho problema pues porque verdad no podemos poner los niños a la escuela.
Non, en ce moment c'est trop difficile, il y a trop de complications, on peut pas emmener les enfants à l'école.
Hay contrarios, entonces problema.
Parce que si on va au village, des fois il y a des gens qui sont contre nous au village, on peut pas y aller.
Vous luttez, mais il y a aussi d'autres paysans qui, eux, ne luttent pas ou ne peuvent pas lutter parce qu'ils travaillent dans les plantations.
Et los que trabajan con los que son dueños de aquí.
Voilà, ceux qui travaillent avec les propriétaires, qui acceptent de travailler avec eux, donc ils sont contre nous.
Combien d'enfants dans le camp ici?
Aquí hay 300 niños.
Ici, il y a 300 enfants à peu près.
1500 familias.
On est 1500 familles ici. Seulement, il y en a qui sont un peu plus loin là-bas. Parce qu'ils protègent aussi, c'est des points de surveillance.
C'est la guérilla avec la machette et le portable.
Oui, c'est comme ça.
L'oreille et l'arme.
Eso se come el hambre porque cuando no hay comida se come.
Mais nous on la mange parce que quand il n'y a rien d'autre à manger.
Comemos.
Et oui, on la mange.
No hay nada más.
Il n'y a rien d'autre.
Et comme je sais pas. Estoy comiendo palma porque no hay comida.
Merci à tous, c'était un reportage avec Antoine Chao. On retrouvera toute cette équipe demain, montage John Santura et Antoine Chao. Merci à José Reynez, Cathy CIB, Raphaël Alegria et Wendy Cruz. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Vincent Godard et Kamal Salifou étaient à la technique aujourd'hui. Colin Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, ainsi que Daniel Slobot. Et Céline Rouzet attend vos messages au répondeur de la base Sud-Issou au 01 56 40 37 37. À demain donc, à 15h, dans la base Sud-Issou, toujours au Honduras. Je vous laisse pour les infos avec Stéphane Leneuf. Salut.
Les premières obsèques à l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée cet après-midi, une femme de 80 ans et sa fille de 60 ans, une centaine de personnes étaient présentes à cette cérémonie. Un nouveau corps a été retrouvé ce matin en Vendée, dans la zone de la Faute-sur-Mer. Cela porte à 29 morts le bilan de la tempête dans ce département. En déplacement aujourd'hui dans les zones sinistrées, le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a annoncé une aide de 20 millions d'euros pour les ostréiculteurs et une aide d'urgence de 5 millions d'euros pour les agriculteurs sinistrés. Ce dispositif prévoit des aides d'urgence pour faire face aux besoins immédiats des trésoreries de ces agriculteurs. Selon les dernières estimations, plus de 52 000 hectares de terres agricoles sont noyés sous l'eau. Le plan digue annoncé lundi par Nicolas Sarkozy au lendemain de la tempête se traduira par des travaux et un plan de financement sur 5 ans. Ces travaux débuteront après la remise d'un rapport dans les 2 mois sur l'état des lieux des digues côtières, de toutes les digues côtières de France. L'annonce a été faite aujourd'hui par Chantal Joanneau. Et puis notez que près de 14 300 foyers sont toujours privés d'électricité selon le dernier point réalisé par ERDF. C'est la filiale de distribution d'électricité d'EDF. À l'étranger, la garde civile espagnole a démantelé avec le FBI américain le plus important réseau mondial d'ordinateurs piratés. Plus de 13 millions de machines. Ces ordinateurs répartis dans 190 pays étaient sous le contrôle de délinquants. 3 Espagnols ont été interpellés aujourd'hui. À Madrid, Pierre Kérol.
Les 3 personnes arrêtées contrôlaient plus de 13 millions d'ordinateurs qu'ils observaient à distance à l'insu de leurs propriétaires. En utilisant le virus appelé les Troyens, les délinquants pouvaient ainsi s'introduire dans les programmes des internautes. Ils pouvaient par exemple s'emparer des mots de passe, des renseignements bancaires, des courriers et aussi lancer des attaques contre les systèmes financiers ou gouvernementaux. Ils avaient également la possibilité d'envoyer ce que l'on appelle des spams ou encore des pourriels. Cette pratique, selon la police espagnole, est courante, mais dans ce cas, il s'agissait du plus important réseau jamais découvert. La garde civile espagnole agit en collaboration avec le FBI américain. les ordinateurs zombies, c'est-à-dire piratés, étaient répartis dans plus de 190 pays. Il s'agissait d'ordinateurs appartenant à des particuliers, mais également à des entreprises privées et même à des organismes publics. Sur l'ordinateur du responsable du réseau, la garde civile a retrouvé des informations personnelles de plus de 800 000 usagers. Madrid, Pierre Quérol, France Inter.
Cure d'austérité en Grèce, le gouvernement annonce un certain nombre de mesures, notamment une augmentation de 2 points de la TVA qui passe de 19 à 21%. Outre l'augmentation de la taxe à la valeur ajoutée, il est prévu également une réduction de 30% du 13e mois des fonctionnaires, de 60% de leur 14e mois. Les pensions de retraite de ces mêmes fonctionnaires ainsi que les salariés du secteur privé sont gelés. Un plan qui devrait permettre une économie de près de 5 milliards d'euros, plan d'austérité salué immédiatement par Bruxelles. De son côté, le premier syndicat grec du secteur privé annonce d'ores et déjà qu'il appelle à la grève à la fin du mois de mars. Il entend protester contre ces nouvelles mesures d'austérité. En Ukraine, Yulia Tymoshenko remerciée. Le Parlement a voté aujourd'hui une motion de censure. Elle met fin à son gouvernement et elle ouvre la voie à la formation d'une nouvelle coalition autour du nouveau président Viktor Yanukovych. Enfin, retenez qu'il y a du football ce soir. Nous sommes à moins d'une centaine de jours de la Coupe du Monde de football. Ce sera un véritable test pour les Bleus au Stade de France. L'équipe de France reçoit en effet l'Espagne, championne d'Europe en titre.
La nuit, le vendredi soir, à partir de 23h, Sylvie Larocca se transforme en Alexandra Cook. Cette dernière connaît très bien Tarzan, Sherlock Holmes, James Dean et Snoopy.
Entre autres.
Plongez-vous dans un monde où tous vos rêves seront permis.
La nuit,
comme si. Tous les vendredis soirs à partir de 23h.
Et ça, ce n'est pas de la fiction.
France Inter et le Théâtre de la Ville présentent du 8 au 20 mars Aude Maritime de Fernando Pessoa, mise en scène par Claude Régis. Un événement poétique et théâtral. L'un des plus grands poètes d'aujourd'hui, sublimé par la vision onirique de Claude Régis. Retrouvez Claude Régis le 8 mars à 20h05 dans L'Humeur Vagabonde.
France Inter.
La différence.
Musique vagabonde avec vous, Frédéric Lodéon.
Bonjour Stéphane. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous parlerai de Bernard Coutaz et d'Harmonia Mundi. Bernard Coutaz, fondateur et PDG de cette belle firme, a disparu et j'en ai parlé lundi, mais nous avions déjà un programme établi, on va y revenir. Je vous parlerai aussi du Quatuor sous toutes ses cordes exactement. Ça va se passer à Tournai bientôt, les 5, 6 et 7 mars. Tournai, bah, c'est pas loin de Douai, c'est en Belgique, mais enfin on est pas loin de Valenciennes non plus, de Bruxelles, etc. etc. Donc colloque, concert, exposition de lutherie autour du Quatuor, évidemment une forme toujours passionnante pour la musique. Et puis, nous allons feuilleter, comme chaque mois, Diapason, notre partenaire papier, si j'ose dire. Voici d'abord Bernard Coutaz. Lui, il a fondé il y a déjà un certain temps cette belle maison qui est Harmonia Mundi. C'était en 1958, à l'automne exactement. Un demi-siècle plus tard, ce groupe indépendant basé à Arles depuis 86 affichait un magnifique chiffre d'affaires, ce qui dans la culture n'est pas facile. Et puis l'employé, et j'espère que ça va continuer. Bien sûr, 330 personnes dans le monde avec de la production de disques, de la distribution aussi de divers labels discographiques, mais aussi la diffusion de livres. Et moi, j'étais impressionné parce qu'on va dans des endroits quelquefois faire de la musique et puis on se dit, tiens, où se trouve la boutique de disques? Ben, par exemple, je me souviens qu'à Gap, il y a une boutique Harmonia Mundi et quand j'y suis passé, il y en avait une en tout cas et que c'est un lieu de culture, c'est un lieu, il y a évidemment des disques, mais aussi des conseils de gens qui sont très passionnés par la musique. Alors ces boutiques-là, c'est vraiment une sorte d'originalité d'avoir, il y en a ailleurs à Paris bien sûr, et dans plein d'autres endroits que vous connaissez. C'est un moment, un endroit, j'ai presque un moment, oui, de rassemblement des gens qui aiment la musique. On va dans cet endroit-là pour acheter, mais aussi pour entendre parler de la musique, pour être conseillé. Donc c'est une initiative tout à fait magnifique. Et Harmonia Mundi s'est rendu célèbre par une politique d'enregistrement très soignée, avec beaucoup de musiciens de très grande qualité, connus ou moins connus, c'est ce qui est bien aussi, quelquefois des tout jeunes. Bon, alors hommage à Bernard Koutaz, et évidemment son œuvre continue. Par exemple, la collection Printemps-Été, comme on dit dans la mode, ça y est, elle est parue, en tout cas le catalogue est disponible, et vous pourrez bientôt trouver par exemple un concerto pour flûte à bec de Corelli. C'est le jour des enfants aujourd'hui, hein, le mercredi, à l'école on apprend la flûte à bec, quelquefois c'est pas très très heureux comme résultat. Voici un virtuose absolument prodigieux, Maurice Steger, et vous allez entendre son incroyable virtuosité et son Babil volubile.